France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Merci d'avoir choisi France Bleu Paris, découverte comme chaque jour, votre rendez-vous avec l'actualité, des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Aujourd'hui, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, d'aller découvrir l'adaptation au théâtre d'un film sorti en 1975, un drame inspiré d'un fait divers qui a passionné des milliers de cinéphiles. Aujourd'hui, c'est sur la scène du théâtre Héberto que vous pourrez revivre ou vivre ou découvrir Sept morts sur ordonnance grâce à l'adaptateur, directeur de théâtre et comédien Francis Lombraille et le héros de cette histoire, le comédien Bruno Volkovitch. Ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue messieurs.
Bonjour.
Vous n'êtes pas tout seul sur scène, on précisera. Les comédiens et les comédiennes qui vous accompagnent. Alors pourquoi et comment adapter un film culte? Quel regard nouveau apporte cette adaptation au théâtre? Que raconte cette histoire? Quels sont les thèmes? Et comment va le théâtre Héberto? On prendra des nouvelles de tout cela. Effectivement, je vais commencer par vous, Francis Lombraille. Vous êtes un des 8 comédiens de 7 morts sur ordonnance. Vous êtes aussi le co-adaptateur du film au théâtre et directeur du théâtre Héberto. Alors bien sûr, on va parler de votre rôle, hein, Bruno Volkovitch, c'est une vraie performance. Mais avant cela, j'aimerais savoir un petit peu plus, sur l'idée, sur cette adaptation. Je crois que cette histoire de cette mort sur ordonnance, elle vous suit depuis pas mal de temps.
Hein. Ah, depuis le jour où je l'ai vue.
Au cinéma.
Au cinéma, oui, oui.
À l'époque.
Oui.
Ah oui.
Alors ça m'avait beaucoup marqué et je trouvais qu'il y avait là-dedans énormément de choses qui étaient traitées entre le harcèlement, entre l'humiliation, entre la perte de confiance en soi, entre le pouvoir et tout ce que ça pouvait amener dans une vie quotidienne ou sociale ou professionnelle et qui pouvait amener à un acte extrême. Ça m'avait beaucoup marqué et j'ai eu la chance de rencontrer Ruffio,
le réalisateur.
Le réalisateur en 2008 avec qui j'en ai parlé. Il m'a dit mais pourquoi tu n'écris pas une adaptation théâtrale?
Oui.
Et tu peux le faire au théâtre puisque ce qui est important c'est pas forcément le film est formidable,
oui,
hein, les acteurs étaient absolument extraordinaires.
Depardieu,
ah oui,
Piccoli.
Oui.
Jane Birkin, je me souvenais plus du rôle de Jane Birkin, voyez.
Oui.
J'ai relu moi aussi.
C'est vrai?
Oui,
mais c'est parce que vous regardez.
Ah, mais très bien.
Et donc, il m'a dit.
Il l'a dit aussi quand même. Il y avait Marina Vladi.
Absolument. Il y avait Marina Vladi, bien sûr. Il y avait même Colin Serrault, d'ailleurs.
Oui, absolument.
Et donc, il m'a dit, non, c'est une véritable tragédie grecque, mais à notre époque. Et ce qui est incroyable, c'est que de 75 en 2008, de 2008 à 2019, en réalité, toutes ces ingrédients de la vie sont encore plus présents aujourd'hui.
Pourquoi vous dites 2008?
Parce que c'est là c'est où en 2008 vous avez que j'ai écrit l'adaptation.
Vous avez commencé à écrire l'adaptation il y a 11 ans.
En 2008, il y a 11 ans, oui. J'ai trouvé aucun théâtre pour me suivre à l'époque, donc il a fallu que j'en achète un pour pouvoir la jouer.
Bon,
je plaisante.
C'est un peu ça.
J'ai même racheté les droits deux fois puisque la première fois je les ai perdus, je les avais pour 3 ans et comme j'avais pas réussi à réaliser la pièce, donc j'ai perdu mes droits et donc il a fallu que je les rachète une deuxième fois.
Et
ce coup-ci et j'ai la chance d'avoir monsieur Bruno Volkovitch qui a accepté d'interpréter le rôle principal.
Après avoir refusé en 2008.
C'est vrai?
Oui. Parce que Francis me l'avait déjà proposé à l'époque.
Et pourquoi vous aviez refusé à l'époque? Vous étiez occupé?
Parce que je venais par hasard de revoir le film quelques mois avant à la télé.
Oui.
Et que après j'avais trop Piccoli en mémoire et je me voyais pas du tout aller
trop Piccoli, hein, j'ai bien
trop Piccoli,
Michel Piccoli, bien Piccoli.
Oui, okay. Non,
vous auriez pu picoler avant aussi, hein.
En l'occurrence non, mais
ouais, mais c'est vrai que le rôle est fort, mais...
Voilà, là, j'ai pas revu le film, donc j'arrive comme pour une pièce de théâtre où il y a toujours un illustre prédécesseur qui l'a joué avant vous. Mais à l'époque, je venais de le revoir, mais vraiment quelques semaines avant, donc c'était pas...
Alors, je sais, Bruno Volkovitch, que vous aviez donc 14 ans, quand vous avez vu le film pour la première fois.
Le jour de la sortie.
C'était donc à Saint-Maur-des-Fossés.
C'est ça.
Dans le cinéma Lido.
Ah non, pas du tout. Non.
Il y a un cinéma à Saint-Maur-des-Fossés qui
s'appelle Lido. Absolument, mais il n'y avait pas de VO dans ce cinéma. Donc, en l'occurrence, cette mort sur ordonnance n'était pas en VO.
Ouais.
Mais j'avais déjà l'habitude de prendre mes billettes à l'heure des cours et de partir en mobilette à Paris, dans le 6e arrondissement. Et j'étais à l'Action Christine, à l'UGC Odéon.
Ah oui, carrément.
Ah oui, oui.
Sans que les parents le sachent?
Bien sûr.
Oh, bah,
ma mère m'écoute d'ailleurs. Mais elle le sait depuis.
À 14 ans, ça vous a vraiment marqué ce film? Ou est-ce que vous étiez marqué par beaucoup de films à l'époque?
Marqué beaucoup plus par d'autres films, mais j'étais marqué par la réaction de mes parents, parce que je suis rentré et je leur ai dit... Parce que, en fait, ma tricherie, c'était que j'allais le mercredi de la sortie des films, tout seul, voir le film. Et le samedi, je disais à mes parents, je voudrais voir ça, et je retournais avec eux voir le film comme si c'était la première fois. Et j'ai fait ça pour des dizaines de films.
C'est
des dizaines de films.
C'est marrant, ça.
Et des fois, même, j'étais obligé de me le taper en VF avec mes parents, au Lido ou à La Varenne-Saint-Hilaire, alors que je l'avais vu en VO, moi, le mercredi. Et non, j'avais été marqué, moi, par là, comment mes parents avaient réagi à la violence du film. C'est-à-dire, moi, à 14 ans, j'étais évidemment pas papa comme je le suis aujourd'hui. Et toute cette histoire de rentrer chez soi et de massacrer sa famille avant de se suicider est tellement un truc dingue qu'à 14 ans, j'avais pas la maturité pour comprendre. Ça me paraissait pas si extrême que ça. Moi, j'avais vu Les Chiens de paille la veille, Le Dernier Tango le lendemain. Ça me paraissait pas
à 14 ans,
l'Empire des Sens.
Dernier Tango à Paris à 14 ans, comment vous avez fait?
Je rentrais par la porte derrière du Saint-André des Arts. Et l'Empire des Sens à minuit aussi.
Vous saviez tout ça?
Ah non.
C'est pas mon père.
Non, je sais. Non. Je pourrais être son frère aîné.
Non, mais d'ailleurs, quand le film est sorti, vous n'étiez pas bien
jeune non plus. J'étais pas très très vieux. Mais enfin, j'étais un peu plus âgé que lui.
D'accord. Voilà. Bon, bah voilà. Voilà comment tout a commencé. Un fait divers, c'était en 69. Le fait divers, c'était en 75, le film. C'est en 2019, la pièce de théâtre, 50 ans après les faits divers, finalement. Alors, on va pas vous dévoiler la fin, même si bon, bref. C'est un vrai suspense qu'il faut vivre au Théâtre Héberto en ce moment. On va juste vous raconter la situation du début. Voilà. Puis, ce sont des thèmes très forts qui sont abordés dans ce film, des thèmes toujours actuels, on va dire heureusement ou malheureusement, plutôt malheureusement. 7 morts sur ordonnance, on en parle dans 3 minutes.
France Bleu, Paris.
Tu t'en fous de tous mes pourvus, qu'elles soient douces. D'un poète,
pourvu qu'elle soit douce. Mylène Farmer sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Basée sur des faits réels survenus il y a 50 ans, cette mort sur ordonnance, c'est une histoire dramatique, passionnante, à découvrir ou redécouvrir, bien sûr, au théâtre. Théâtre des Batignolles, boulevard, pardon, Théâtre Héberto, boulevard des Batignolles dans le 17e. C'est avec un comédien que vous avez vu des dizaines de fois à la télévision, au théâtre, à la Comédie Française et quelques fois au cinéma, Bruno Volkovitch. Et puis à ses côtés, Francis Lombraille, lui-même comédien, co-adaptateur et directeur du Théâtre Héberto. Messieurs, sans dévoiler bien sûr la fin de cette histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas du tout, on peut parler d'abord de d'où ça se passe, c'est important. Du contexte, puis quels sont vos rôles. Alors, Bruno, qui est le docteur Losseray, pour vous?
L'incarnation du serment d'Hippocrate.
Waouh, bah oui. C'est vrai que c'est un médecin, c'est un chirurgien.
Oui, mais enfin, c'est surtout quelqu'un je crois que dans n'importe quel métier, quel que soit le métier qu'il aurait pu faire, c'est quelqu'un qui n'existe que pour l'éthique qu'il y a respectée à travers son travail. Il aurait pu être mécanicien, prof de philo... boucher, je crois qu'il y a une manière de revendiquer une éthique dans son travail et le comportement avec les autres et avec son travail. Et il en est vraiment une véritable incarnation.
C'est fou parce que du coup, ça devient presque un défaut quand on connaît l'histoire.
Mais c'est un héros positif à qui il arrive malheur.
Ah oui, c'est tout à fait ça. Là. Ouais. Est-ce que ce rôle, justement, a nécessité une préparation particulière? Je ne sais pas, est-ce que vous avez
rencontré... Ouais, j'ai appris à me laver les mains.
Ah oui, c'est vrai.
Non, c'est pas une blague.
Non, mais c'est vrai, oui, bien sûr.
J'ai demandé à un ami qui est chirurgien de me montrer les techniques de 1975, celles d'aujourd'hui, parce qu'elles ont changé, par rapport aux brosses, par rapport... Bon, après, on n'est plus dans le réalisme au théâtre.
Oui.
Et j'ai fait une espèce d'adaptation des deux techniques avec la simulation en scène qu'on fait, oui. Avec les bruits... Voilà.
Et votre ami chirurgien, justement, qu'est-ce qui vous a parlé de ce rôle? Il vous a parlé de ce
Ah non, pas du tout. Non.
D'accord.
Non, j'ai un metteur en scène pour ça.
Alors, vous, Francis, oui, heureusement d'ailleurs.
Et une bonne.
Je crois que je l'ai pas dit. Adaptation, mise en scène, Anne Bourgeois. Et l'adaptation, c'est Anne Bourgeois et vous, Francis Lombraille. Hein.
Absolument, oui.
Et vous, Francis, vous jouez le rôle de dramatique aussi, hein, de quelqu'un qui va arriver un malheur.
Absolument, oui, le commissaire.
Le commissaire
Giré qui a existé en plus. Hein.
Ah bon,
c'est un personnage qui a existé.
Oui, évidemment.
Puisqu'on a eu un témoignage du neveu du médecin qui s'est suicidé, qui est venu
le
voir
premier.
La pièce.
Ah.
Oui, et qui est venu et qui nous a dit le commissaire que vous incarnez a vraiment existé. Bon, on en a fait un personnage un peu plus, j'allais dire, théâtral, si
oui.
Vous voulez, pour qu'il existe. Mais il a vraiment existé.
Et
comme tous les autres personnages d'ailleurs.
Oui. Qui jouait le rôle dans le film, pour ceux qui
c'était
ont vu
un acteur espagnol dont j'ai oublié.
Ah oui, moi aussi.
Laissons
tomber.
Un excellent acteur d'ailleurs.
Oui, alors les personnages de cette histoire, eh bien nous avons donc ce chirurgien, ce commissaire. On est dans le milieu médical, de l'hôpital. On a la
de
femme. De
l'hôpital public.
Contre
les cliniques privées. Toute l'histoire, c'est le pouvoir économique du privé,
ouais.
Qui essaye d'acquérir les gens d'éthique du public. Ce qui peut être valable partout ailleurs que dans le médical, partout où il y a le privé et le public, il y a exactement la même problématique tout le temps.
Et puis il y a un héros, un second héros, c'est le fameux docteur Berg, qui est à l'origine finalement de tout ce drame.
Que joue Valentin de Carbonnière.
Voilà, qui est extraordinaire parce que c'est un rôle aussi qui c'est un personnage, on a du mal même à comprendre sa psychologie, mais finalement on comprend tout ce qui découle de personnage.
C'est une autre version, enfin je ne veux pas parler en son nom, mais... c'est une autre version d'Hippocrate à travers une forme de narcissisme aigu. C'est un compétiteur, c'est un champion. Mon personnage est un coureur de fond qui fait pas de compétition. L'autre est il veut être champion du monde de la chirurgie.
Et il veut être une star.
Et ça, j'en ai parlé avec mon ami chirurgien. C'est un type de comportement qui existe très très fréquemment dans le milieu de la chirurgie où on est dans une telle précision, ça demande un tel engagement quotidien, une telle rigueur, une telle santé même pour arriver à tenir à tenir ces épreuves d'opération qui peuvent durer 5, 6, 7 heures, 8 heures. Et lui, c'est un qui veut être champion du monde
ah
et
oui.
qu'on arrive à, à déstabiliser, dont le pouvoir, l'homme, le méchant de l'histoire du pouvoir privé arrive à trouver les failles et à le déstabiliser jusqu'au drame.
On regarde son chirurgien, quand on a affaire à un médecin ou à un chirurgien, on le regarde un peu différemment après ce genre de spectacle. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans l'adaptation, finalement, pour vous?
Pardon?
Qu'est-ce qui a été le plus dur dans l'adaptation?
Dans l'adaptation, c'est tout réécrire, en réalité. Le film, c'est le travail d'une caméra avec des gros plans, avec des expressions qu'on va chercher au plus près. Là, nous sommes au théâtre, il faut réécrire, il faut tout réécrire. Ouais. Et d'ailleurs, la plupart des monologues, la plupart même des dialogues sont quasiment tous réécrits. Ouais. Renuancés de manière à ce que les couleurs réapparaissent d'une façon orale, que l'oralité vienne, si vous voulez, illustrer le jeu et l'histoire. Parce qu'en réalité, c'est un thriller social et professionnel, et il faut et c'est une très belle histoire d'amour.
Oui,
c'est une très belle histoire d'amour.
Il y a aussi une histoire
d'amour comme c'est une sorte de Roméo et Juliette aussi. Non, mais c'est vrai et ça a vraiment existé. Donc pour être shakespearien ou ça, vous voyez, il suffit. La vie nous réserve les surprises quelquefois du théâtre ou du cinéma. Voilà.
Oui, puisque c'est la vie qui vous a inspiré cette histoire, enfin qui a inspiré
cette histoire. Absolument.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette histoire, elle se déroule dans plusieurs lieux. Ça semblait sans doute difficile de restituer au théâtre les différents lieux, et vous les évoquez en travaillant sur les couleurs, justement. Vous avez dit le mot couleur, sur les sons également, sur les bruits, les sons. Je me demandais ce que ce manque de repères, parce qu'on va le dire, il n'y a pas d'objet, enfin pratiquement pas d'objet sur scène, mais par contre tous les lieux sont évoqués par des couleurs différentes.
Absolument. Alors,
est-ce que ça a changé quelque chose en termes de comédie, le jeu du comédien, de ne pas avoir de meubles, de décors, finalement? Ça a changé quelque chose pour vous deux?
Mais c'est-à-dire que d'abord, moi, je me suis référé à deux grands artistes d'art contemporain. Faut le savoir, c'est pas évident. C'est James Turrell et Mark Rothko. Si vous ne savez pas ça, effectivement,
non, je sais pas.
Mais si vous voulez, ça a été mes références. Vous savez, en 1940, Picasso faisait pour le Minotaure, il faisait le décor du théâtre. Des gens comprenaient, des gens comprenaient pas. Si vous voulez, c'est une découverte.
Ouais.
Mais il y a une cosmicité dans les fonds qui fait qu'en réalité, vous trouvez une place sans référer à une anecdote, sans un pot de fleurs, un canapé, une table, etc. Ce qui permet, si vous voulez, de donner au jeu une présence complètement de tragédie racinienne, vous voyez, avec c'est l'espace qui joue avec l'acteur et l'acteur qui joue avec l'espace.
C'est la première fois que vous jouiez dans ce genre de décor? Par la lumière, par les couleurs?
Non, j'ai joué plusieurs tragédies raciniennes et cornéliennes.
Sans objet?
Oui, bien sûr. Sûr. Non, le seul... on peut pas appeler ça un détail vu le nombre de coups de téléphone qu'il y a dans la pièce. Mais la seule chose qui a été très, très bien fait, qu'il a fallu inventer, c'est réellement d'être au téléphone sans téléphone.
Ouais.
C'est-à-dire on est au-delà du smartphone, là. Il est
mais sincèrement, pour avoir
théâtre.
Vu la pièce, on s'habitue très 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 vite. Oui. Et les décors, on les voit sans qu'il y ait quoi que ce soit. C'est assez.
Mais nous, on est passé dans le travail par le vrai téléphone qu'on tenait à la main pour arriver à avoir cette réponse avec l'autre qui est dans un autre espace. On se parle au téléphone sur scène sans aucun appareil, sans aucun mouvement, sans quoi que ce soit, et trouver la vérité théâtrale de ces moments téléphoniques, quoi.
Oui, ça fait un peu marcher notre imaginaire, mais on est là pour ça aussi, oui, quand on va au théâtre. Pour connaître le dénouement de cette histoire, rendez-vous donc au théâtre Rebertho du mardi au samedi, c'est à 21h. En matinée, 15h30, ça c'est le dimanche. 7 morts sur ordonnance, c'est jusqu'au 14 avril pour l'instant. C'est bien cela?
Oui,
monsieur le directeur.
On va
peut-être aller plus loin. Quels sont les autres thèmes abordés par cette histoire? Que retient-on de cette histoire qui fait beaucoup réfléchir? Vous en saurez plus dans un instant, dans la suite de France Bleu Paris Découverte. Eh bien, ça sera comme chaque jour après Accès Privé. Notre reporter aujourd'hui, Muriel Jordan, a décidé de nous faire découvrir un bâtiment. C'est le café qui fait... Ah non, c'est votre... Ce petit bruit, c'est ce qu'on appelle... Comment ça s'appelle déjà?
Il vapote.
Donc Muriel Jordan nous emmène à la découverte d'un bâtiment pas très loin du théâtre Rebertho. On reste dans le quartier des Batignolles et elle découvre pour vous, ça dure 3 minutes, le nouveau tribunal de Paris dans le quartier des Batignolles.
France Bleu Paris.
France Bleu.
Rien ne dure,
9 mois, puis rien n'est sûr. Acné, premier baiser. Combien de temps d'amour à partager? Rien ne dure. Des passions, des secrets. Ne reste que des regrets. C'est comme ça, on s'y fait. On n'a pas le temps de freiner. Que la Porsche de James Dean s'envole en fumée. À toute allure, beauté, gloire, apogée. Dans cette course effrénée, et ce peu qu'il reste à partager. Tout se meurt avant la vie d'après. Le mortel, tout change sous le ciel. Ou alors il faudrait pouvoir se réincarner. Quand la Porsche de James Dean s'en va en fumée. Son armure, serment, fidélité, douceur, finissent par une lame dans le cœur. Liberté, censure, dictature opprimée. Aucune guerre mondiale, ni protocole de paix. En cendres retombées. La Porsche de James Dean s'envole en fumée. D'ici jusqu'à l'est de l'Éden, l'enfance qu'on se traîne. Freddy, Johnny, Cobain. Même si ça te fait de la peine. En attendant que la lumière s'éteigne. Idole, musée, musée. Les bolides en acier. C'est juste pour patienter. Et pour faire des clichés. Quand la Porsche de James Dean s'en va.
Rien ne dure, Pascal Obispo sur France Bleu Paris, il est midi et demi dans un instant accès privé, mais on s'interrompt quelques instants pour vous faire partager une nouvelle que l'on vient d'apprendre, c'est le décès du styliste Karl Lagerfeld. On reviendra bien évidemment sur cette disparition dans le journal de 13h.
France Bleu Paris, découverte.
Et dans un instant, donc, la suite avec nos invités au Théâtre Héberto en ce moment, 7 morts sur ordonnance. Nous continuerons à parler de cette pièce avec Bruno Volkovitch et Francis Lombraille, juste après Accès Privé.
12h-13h, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu.
On se dit tout sur France Bleu. Du vécu, on voilà.
Vous avez accouché sous X ou vous êtes un enfant né sous X, il y en a chaque année 600 en France. Mais comment on se construit avec cette étiquette et comment on fait aussi quand on part à la recherche de son histoire?
Vanessa Lambert, on se dit tout sur France Bleu dès 14h.
France Bleu.
France Bleu Paris.
France Bleu.
C'est l'heure d'accès privé, comme chaque jour, Muriel Giordan ouvre les portes d'un lieu inédit et inaccessible au public. Et vous êtes peut-être déjà passé devant cet immeuble, tribunal de Paris, dans le quartier des Batignolles, c'est immense, on le voit de très loin. Notre reporter vous fait visiter une des salles d'audience, la salle Victor Hugo, aux côtés du président du tribunal de grande instance de Paris, Jean-Michel Ayat.
Visite du tribunal de Paris avec des chiffres qui donnent le vertige. Le bâtiment fait quand même plus de 160 mètres d'altitude. Il y a 90 salles d'audience. Quand vous venez ici, qu'est-ce que vous vous dites ? Waouh !
Je pense que tout le monde est impressionné par cette lumière, cette transparence, cet espace et le sentiment que ça ne ressemble à aucun autre palais de justice.
Vous qui nous écoutez, imaginez un immense espace qui donne le tournis, 160 mètres d'altitude, fait ce bâtiment dont l'architecte est Renzo Piano. Il y a des écrans partout, on est dans quelque chose de très moderne. Il y a le symbole de la justice un peu partout.
Regardez à l'entrée cette phrase, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est pas inutile de le rappeler.
Donc là, nous venons d'entrer dans cette salle qui est assez impressionnante, très belle. Et qui semble assez grande. Est-ce que c'est ici que vont se dérouler les grands procès ?
Oui, on considère que cette salle est vraiment adaptée pour y organiser les grands procès où il y aurait beaucoup de prévenus, beaucoup de victimes et un important public, puisqu'on peut asseoir dans des conditions de confort tout à fait satisfaisantes 220 personnes, qu'on peut sans difficulté avoir une trentaine d'avocats en défense, quasiment autant en partie civile, et réserver des bancs pour la presse. Au-delà de cela, vous avez un équipement extrêmement sophistiqué en visioconférence. Vous avez la possibilité de régler la lumière, la possibilité de descendre des stores, de disposer d'un rétroprojecteur. Bref, et même une vidéotransmission. Dans le cas où il y a énormément de public, on peut organiser une vidéotransmission où une autre partie du public serait dans une autre salle d'audience, mais pourrait suivre les débats dans cette salle Victor Hugo. C'est une salle d'audience très vaste. Vous voyez que la défense peut tout de même se déployer en ayant un plan de travail très large, des tablettes pour disposer l'ordinateur, des prises électriques, bref. La possibilité de ne pas venir avec le dossier papier, mais de venir avec le dossier numérisé sans aucune difficulté. Énormément de place pour le public. Une barre des témoins qui permet de voir sans aucune difficulté l'expression du témoin, de la victime, du prévenu, tant pour le tribunal que pour les différentes parties. Vous avez sur les côtés une cabine pour l'interprétariat simultané, plutôt que d'avoir un interprète à côté du box dans des conditions qui ne sont pas idéales. Là, c'est vraiment des cabines comme on en voit dans des salles de conférences internationales avec un équipement en conséquence.
Le bureau, par exemple, à droite, sur notre droite là, qui s'y trouve ?
Eh bien, c'est l'huissier d'audience, celui qui appelle les affaires, qui va aller chercher les témoins en salle des témoins.
Là, il y a un bureau un peu en retrait devant.
Le bureau juste devant la barre des témoins, c'est le meuble dans lequel on dispose des pièces à conviction.
Et voilà, c'est fait. Merci Muriel Jourdan, comme tous les jours. Merci et à demain.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Midi 36, si vous nous rejoignez, vous écoutez France Bleu Paris Découverte avec nous aujourd'hui. Deux des héros d'une histoire passionnante, un fait divers qui connut sa version cinématographique, qui aujourd'hui est à vivre en live finalement sur la scène du théâtre Héberto. Cette mort sur ordonnance, c'est l'adaptation de Francis Lombraille avec Francis Lombraille et Bruno Volkovitch avec nous aujourd'hui sur France Bleu Paris Découverte, le théâtre Héberto. 78 bis, boulevard des Batignolles dans le 17e métro Rome, c'est plus facile que Place Clichy, je me suis trompé l'autre jour, j'ai un peu marché. Bref.
Ou métro Villiers.
Métro Villiers est pas mal
c'est
aussi.
C'est exactement entre les deux.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est un point important de préciser. Nous sommes avec, nous sommes dans le milieu chirurgical, dans le milieu de l'hôpital, l'histoire d'un médecin, il y a un psy, il y a un directeur d'hôpital privé, de clinique privée. Et on se dit en sortant de cette pièce passionnante que finalement ce milieu, il est terrible. Il y a la guerre entre certains, il y a la concurrence, c'est le monde du harcèlement, de la manipulation, de la folie. Est-ce que vous pensez que cette histoire, c'est un cas à part, ou est-ce que finalement c'est assez courant ce genre de tension dans ce milieu-là particulièrement ?
Moi, je crois que ça existe dans tous les milieux.
Ah oui, oui,
j'allais le dire. Moi, je crois que ça existe dans tous les milieux. Vous avez ce qu'il y a de meilleur et vous avez ce qu'il y a de plus mauvais. Et chaque fois, le pouvoir et l'argent pervertissent énormément les choses et les rapports entre les individus, parce que vous avez des gens brillants qui se foutent complètement de l'argent, qui font leur métier uniquement pour le bonheur de le faire. Et puis vous avez des gens pour qui c'est primordial. Cet argent-là est primordial, ce pouvoir est primordial, et ça change énormément les rapports à l'intérieur de cette corporation, qu'elle soit d'ailleurs médicale ou autre chose. Hein. Ça peut arriver chez les avocats, chez les magistrats, chez les architectes, dans le milieu du théâtre, dans le milieu des journalistes, aussi. Dans tous les milieux.
Mais le harcèlement à ce point-là, je ne sais pas si vous en avez parlé, vous disiez que vous aviez, Bruno, un ami chirurgien, être harcelé à ce point-là, est-ce que ça peut encore exister aujourd'hui ?
Bien sûr, sûr.
Pourquoi ? Oui, sans doute.
Évidemment, pourquoi pas ?
Tous les personnages de cette histoire ont vécu, hein, ont vécu et vivent dans cette histoire justement des drames intérieurs. Là aussi, on s'aperçoit quand même qu'on a affaire à 8 personnages qui ont des soucis, qui ont des problèmes, qui ont des secrets enfouis en eux-mêmes, et on se dit que même le psy... finalement, il peut pas faire grand chose face à ces gens-là, parce que il a ce rôle-là aussi.
Alors... Mais le psy est peut-être celui qui est le. D'ailleurs, il a une expression qui me fascine tous les soirs, c'est qu'il accepte d'être dans les codes. Et à partir du moment où vous acceptez de frayer avec le pouvoir et de revendiquer l'éthique avec l'autre, on est dans une forme. C'est Philinte dans le Misanthrope. On est dans un entre-deux où il n'y a plus d'incarnation, il n'y a plus d'âme, puisqu'on ne choisit pas dans la vie, il faut forcément, par moment, choisir son camp.
Ouais.
Même s'il y en a pas, même si je ne juge pas qu'il y en ait un meilleur que l'autre, mais il faut choisir son camp très fréquemment dans la vie, dans tous les milieux.
Ah, ça fait réfléchir. Est-ce que vous pensez que cette histoire aurait pu se dérouler à Paris, par exemple ? Moi, je me suis dit peut-être ça vient du fait que c'était en province. Il y a aussi le poids, comme ça,
je crois que le poids de la province, c'est pas négligeable. Hein, ouais. C'est vrai.
Mais il y a un médecin qui s'est suicidé à Paris le mois dernier, à Vicennes.
Vous savez, Paris est divisé en plein de petites provinces. Et puis je vois dans beaucoup de professions, ces codes existent. Si vous acceptez les codes, bien sûr c'est un peu plus tiède, votre vie est un peu plus tiède, mais vous avez un certain confort. Mais si vous allez contre les codes, moi je vais contre les codes. Hein, qu'est-ce que fait un type qui a été 27 ans commissaire priseur, qui maintenant depuis 15 ans
achète un théâtre,
qui en plus est comédien, qui en plus fait des adaptations, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais voilà.
Ah bon, on vous fait encore ces
remarques ? Bon, mais je le sens. Vous savez, je sens une certaine condescendance. Je sens que pour certains, je les agace. Pour d'autres, au contraire, ils trouvent que c'est formidable et que ça devrait être le cas de plein de gens. Mais vous avez tout un combat d'arrière-garde, de vieilles barbes, qu'elles soient féminines ou masculines. Je les sens agacées.
Bon, mais tout ça, c'est...
Mais ça
c'est
j'allais dire, moi, ça m'excite. Je trouve ça formidable.
Oui, en plus, j'imagine. Mais le grand public, le public, il ne sait pas tout ça.
Oui.
Donc il va au théâtre et Berthaud et il s'en fout de savoir si on vous embête.
Non, mais c'est pour parler des codes.
Moi, vous avez raison. Cette mort sur ordonnance, je l'appelle. Pourquoi ce titre ? Eh bien, vous le savez, en allant découvrir 8 comédiens formidables, une histoire, encore une fois, je le dis, passionnante, un vrai suspense au théâtre et Berthaud. Et puisque nous sommes avec le copropriétaire, hein, vous êtes copropriétaire du lieu, c'est ça, ou propriétaire ?
Propriétaire
tout court.
De l'exploitation des Berthaud.
Bon, on va parler des Berthaud dans un instant.
France Bleu Paris.
I'm gonna wreck your back, take it now. No, I'm gonna wreck your back. Take it now, slow. Gonna wreck your back. Don't you know?
Donc you know Kung sur France Bleu Paris.
France Bleu.
Chaque jour sur France Bleu, l'insolite s'invite dans Une heure en France.
Nous nous intéressons à une course hippique sur glace. Des spécialistes de la chaîne Equidia viennent nous raconter ce défi. Et puis on découvre le réseau Pousse. C'est une sorte de blablacar à destination des autostoppeurs.
Frédéric Le Ternier, Denis Farou, Une heure en France sur France Bleu, dès 13h.
France Bleu Paris.
Une affiche rouge, blanche, un grand 7 en rouge, des lettres noires pour le titre, 7 morts sur ordonnance. Vous l'avez sans doute croisé, cette belle affiche. Cette pièce se joue actuellement au théâtre Héberto, 78 bis boulevard des Batignolles. C'est avec Bruno Volkovitch, Francis Lombraille, mais aussi, on va les citer d'ailleurs, Claude Aufort, Valentin de Carbonnière, Jean-Philippe Huit-Martin, Julie de Balzac, Jean-Philippe Bèche et Bruno Pavio, je les ai tous cités. Francis Lombraille, vous êtes donc le propriétaire du théâtre Héberto. Vous connaissez un peu l'histoire de ce lieu, quand vous l'avez cerné,
acheté. Oui, bien sûr. Vous êtes un petit peu regardé un petit peu l'histoire de. D'ailleurs, ça a été un véritable western au départ.
Ah bon?
Ah oui, ça a été parce qu'il a fallu des autorisations royales, etc.
Ah après, oui, voilà, sa construction. Voilà. Oui.
Ensuite, bien sûr, j'ai lu Héberto le Magnifique avec toute cette progression extraordinaire, l'arrivée de Camus, c'était absolument extra, avec Michel Bouquet, la rencontre Gérard Philippe et Michel Bouquet dans Caligula, enfin wow. Tout ça c'est magnifique. D'ailleurs dans ma loge actuellement, il y a la photo de Maria Cazares et de wow. Michel Bouquet lorsqu'ils étaient tout jeunes et lorsque ils ont joué avec Gérard Philippe Caligula. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un lieu absolument extraordinaire.
Ouais, un théâtre en plus à
taille. Construit en 1838, voilà. Et qui est dans un état absolument magnifique.
Vous le connaissez bien, ce théâtre, Bruno. Vous y avez joué en 2017, 12 hommes en colère, qui a été un véritable succès. Et il y a une âme particulière dans les théâtres et dans celui-ci, où il ressemble à beaucoup d'autres.
Non, il y a vraiment une âme par théâtre et la présente, c'est celle de Francis. Et ouais. Le point commun entre 12 hommes en colère et ça, c'est sa volonté que j'y vienne. Donc, le chef d'orchestre est toujours responsable de l'âme des choses, comme Anne Bourgeois.
Ouais,
est l'âme du spectacle, cette mort sur ordonnance, parce qu'elle nous a emmené vraiment dans le travail. Moi, j'ai rarement fait un travail, je pense que Francis peut le confirmer, où l'esprit de troupe a régné avec cette gentillesse, cette bienveillance, ce support des uns pour les autres. Et on est vraiment une équipe heureuse de se retrouver tous les soirs pour jouer la souffrance. Et ça, oui. C'est très important sur ce genre de spectacle qui fonctionne beaucoup sur la nervosité, sur le mal de vivre, que nous, on soit dans le plaisir de faire partager au public la douleur et non pas dans une complaisance ou quoi que ce soit. Et ça, Anne nous a vraiment emmené sur un terrain de joie pour jouer ce qui n'est pas de la joie.
Ce qui n'est pas de la joie,
ça, c'est vraiment, elle est très très forte là-dessus.
Alors en parlant de joie, il y a deux salles, il faut le préciser, hein, si vous allez au théâtre Héberto, il y a deux salles et il y a un autre spectacle qui se joue en ce moment qui s'appelle Voyage avec ma tante de Graham Greene, voilà, 19h.
Avec le même comédien.
Mais oui, c'est ça, je me suis dit, mais Claude Aufort, il joue.
Claude Aufort, 76 ans, joue à 19h et 21h, en pleine forme et
génial.
Avec un talent.
Ah, il est absolument incroyable,
ouais,
franchement.
Ouais. Ça vaut non, mais c'est bien, ça donne de l'espoir.
Oui, enfin bon, vous êtes encore loin. Bruno Volkovitch, quelque chose me dit qu'hier soir, vous avez regardé TF1. Il n'a pas regardé TF1 hier soir.
Je parle pas de vie privée.
Bon, d'accord, ok. Mais il y avait quand même une série, et moi j'ai bien vu au générique qu'il y avait une certaine Loulou qui portait le même nom que vous, et ben elle jouait très très bien, une ado rebelle.
Ah, mais les homonymies sont permanentes.
Ah, ben, tu parles, hein. Bien sûr. Non, elle était parfaite. Et voilà, elle a suivi les traces de son papa et de sa maman, et je crois qu'elle a bien fait. Francis Lombraille, vous êtes battu hein, pour adapter cette pièce. Enfin, en tout cas, ça a été un long chemin. Pour la monter dans votre théâtre, au théâtre Héberto. Vous avez peut-être même acheté ce théâtre pour monter cette pièce. Est-ce que vous avez compris aujourd'hui pourquoi cette histoire, elle vous touche autant?
Je pense tout simplement parce qu'elle peut arriver à n'importe qui.
dans n'importe quel milieu, dans n'importe quelle profession, on est toujours confronté à cette histoire de jalousie, d'envie, de pouvoir, d'humiliation, de la confiance que l'on a en soi. Quand on a très confiance en soi et quand on perd cette confiance, les failles aussi, les failles chez les individus. Pourquoi ce premier médecin va être, j'allais dire, mis à mort quasiment? C'est parce qu'il a une faille qui est le jeu. Et puis parce qu'il est aussi un peu mégalomane, parce qu'il en veut trop à un moment donné. Trop, c'est trop, et vous ouvrez en vous une certaine vulnérabilité, une certaine faiblesse. Donc tout ça, je trouve ça passionnant, et c'est tous les ingrédients des grands romans, des grandes œuvres. Et j'ai trouvé que dans ce propos qui était un fait divers, et comme Roland Barthes le disait dans les années 65, un fait divers, à partir du moment où il est écrit, devient fondamental et universel, puisqu'il parle des valeurs de la vie et de la mort. Donc je crois qu'on peut...
On a bien résumé,
on peut pas faire mieux.
Bah, vous avez bien fait d'accepter enfin le rôle, Bruno Volkovitch. 7 morts sur ordonnance, actuellement au théâtre Héberto, je le rappelle, du mardi au samedi à 21h, le dimanche à 15h30. Merci messieurs d'être passés par ici pour nous en parler. Bonne journée à vous.
Merci à vous. C'est
un
plaisir.
Dans un instant, bien sûr, Une Heure en France et le journal de 13h. Nous reviendrons sur l'annonce de la disparition de Karl Lagerfeld. C'est dans 9 minutes le journal de 13h.
France Bleu Paris.